moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ja, bonjour, le guten Morgen, liebe Rundfunk zuhör. Mache groß eure Ohrläppel auf, jetzt geht's los. Heureux de vous retrouver, chers auditeurs, comme tous les mercredis matins, à la même heure, même place, mais pas toujours. Ben, si je calcule bien, ma première émission était à l'antenne début septembre 2022, de septembre au beau mois de mai, septembre, octobre, novembre, c'est-à-dire, ça fait 9 mois que vous écoutez mon émission. Waouh, 9 mois, c'est aussi une naissance, ben oui. C'est un gros bébé bien joufflu que je porte dans mes bras, que j'ai baptisé « Fais-moi une place » et le bienveillant généreux parrain de Pfeter, c'est Julien Clerc qui nous susurre sa mélodie avec un bonheur incommensurable. Merci parrain Juju. Vous trépignez certainement d'impatience, mais qui est l'invité d'André Muller? Mais qui c'est? Que fait-il? À quoi pense-t-il? Il est comment? Mais un peu de patience, Lévilite, je vais vous le dire. Il s'appelle Bernard Kunz. Il est natif du 6-8 au Rhin Overland. Bonjour Bernard, ravi de te rencontrer, de papoter avec toi, Itmorie.
Salut André.
Ça va, tout va bien pour toi?
Ouais.
Tu peux te présenter, Bernard? Quel âge as-tu?
Ah ben, j'ai 65 ans.
C'est quoi ta profession?
Disons, j'ai fait un salon spécial, alors j'ai pas une profession, j'en ai une dizaine.
Waouh, génial ça. Alors tu me raconteras. Tu as tous tes vaccins?
Oui, je pense, oui, je peux voyager, ouais.
Tu es de grande taille, cheveux un peu hirsutes, semés d'argent, tu sèmes l'argent?
Ouais, c'est ça, ouais. L'or avec le bretzel.
Ah, et tu es un bel homme?
Ça, c'est pas moi de le dire.
C'est moi non plus, c'est les filles qui disent
bah
ça.
Ouais.
Et dis-moi, tu as grandi à Jungholz, c'est le jeune bois, où est Jandis?
Ça, c'est à côté de Gebwiller et Soultz, c'est au pied du Grand Ballon. Et c'est à côté d'un lieu de pèlerinage connu qui s'appelle Tirrenbach, Notre-Dame de Tirrenbach.
Ouais, on connaît cette belle église. C'est un lieu-dit, Jungholz?
Oui. Enfin, c'est un lieu-dit, non, c'est un village, c'est une vraie commune. Avec un millier d'habitants.
Ah, quand même 1000 habitants. Il y a une église et une boulangerie, j'imagine.
Oui, avec une histoire un peu particulière, parce que les vallées étaient très agricoles, mais Jungholz était industriel, ouvrière. C'était la filiale de la SACM.
Ah oui.
Donc, c'était un peu la gauche, tu vois, c'était un peu les socialos, les communistes.
Et puis,
il y avait deux musiques. Il y avait la musique rouge. Et il y avait la musique noire.
Ah, d'accord. C'est noir, c'est quoi la musique noire?
Celle du MRP, celle des curés.
Ah, d'accord.
Oui. Et l'autre, c'était la musique rouge. C'était la musique un peu révolutionnaire, oui.
D'accord. Parle-moi un petit peu, avant de faire la révolution, parle-moi un petit peu de ton enfance à Jungholz. Une enfance heureuse?
Oui, André, parce que mes parents avaient un hôtel-restaurant, donc j'étais un peu le shérif du village, si tu veux.
Et puis le shérif?
Ouais, et puis j'avais la grand-mère qui avait, la copée.
Le kunsum?
Ouais.
Autant de sardales.
Et puis là, j'allais piquer les bonbons, je savais pas qu'il fallait les payer, tu sais. Je connaissais pas ça. Et je distribuais les bonbons dans le village.
Aux copains et tout ça. Et ta grand-mère te tapait pas sur les doigts quand tu les vidais?
Non, elle me laissait faire.
Ouais, normal, grand-mère.
Désolé,
ouais, c'est beau. Donc tu gardes de bons souvenirs de ton enfance.
Ouais.
Et tu jouais à quoi à l'époque? À Thierry Lafronde, à Zorro?
Ah ben, disons, il y avait ça, il y avait les premières cigarettes, les P4 qu'on avait fumées.
Ah, les P4, oui. Ah oui, je me souviens de ça. Mais tu n'étais pas malade avec ça?
Ben non, et puis un jour, il y a le garde champêtre qui m'a mis dans le Kikesla.
Dans le Kikerla?
Ouais.
Ah ouais, pourquoi? Dans la prison?
Il nous a attrapés en train de fumer des cigarettes.
Ouais.
Et donc, il nous a enfermés pour l'après-midi.
C'est quand même injuste, ça.
Oui. Puis le soir, j'ai pu sortir et tout, avec les copains et tout. Et puis, mon père ne m'a jamais raconté ce qui s'est passé.
Ah oui?
Il m'a raconté quand j'étais adulte. C'est marrant parce que...
Parce qu'il le savait, ton père?
Bah oui, le garde champêtre, quand il nous a enfermés, il est allé voir mon père. Il a dit, j'ai mis dans le cajot.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est ton papa qui...
Et puis, je les libère ce soir. Et il s'est pris un nion en disant, tu le sors de suite, parce qu'on ne fait pas ça à des enfants.
Ah oui, c'est vrai, c'est traumatisant quand même. Hein.
Mais moi, il ne me l'a jamais dit.
Ah oui, d'accord. Et alors, parle-moi un petit peu de ta scolarité. C'était une scolarité heureuse? C'était plutôt rêveur, travailleur?
Non, c'était un peu...
Tu regardais par la fenêtre, comme moi?
C'était un peu la déconnade, c'était un peu... Ouais, c'était un peu borderline niveau scolaire.
Ouais.
Mais j'ai quand même réussi à revenir.
Ouais.
J'ai réussi à faire mes examens et tout, donc ça allait, quoi.
Ouais, c'est bien, ouais.
Ouais.
Les examens médicaux, tu veux dire ?
Aussi.
Et alors, parle-moi un petit peu de... Tu as grandi avec le dialecte, le haut-rhinois. Attends, on va d'abord écouter un peu de musique. On va demander à nous mettre un peu de bachung à notre ramasseur de bruit derrière sa vitre.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau.
C'est beau, Bachung, hein? Ah, c'est un vrai poète, cet homme.
Oui, oui.
Et en plus, il a les mêmes racines que nous. Il est Il a grandi ici en Alsace.
Oui, hein. Oui, le Rokicher du grand-père, il l'a avec le Sylvaner et tout le tralala.
Ah quoi, oui, sur sa musique Alsace Blues. Ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Ouais, c'est beau. Alors, toi, pareil, un petit peu le Alsace, Flestentine Oudre.
Oui.
Comment on peut traduire ça, Flestentine Oudre?
Il coule dans tes veines.
Coule dans tes veines.
Alors, si tu veux, c'est familial, c'est mon papa qui était un fan de Germain Müller, qui était un fan de l'Alsace, qui après-guerre a été mis en scolarité à Belfort pour gommer son accent, tu vois.
Ah ouais.
Oui, à l'âge de 15 ans.
Ça c'est pas cool, hein.
Non, mais c'est ce qui se faisait.
Ouais.
C'est ce qui se faisait. Mmh. Et puis voilà, donc il avait ça vraiment en lui, et puis je regrette qu'il ait pas vu tout ce que j'ai fait après, que j'ai...
Ouais.
Parce qu'il est parti très tôt, tu vois.
Il doit le voir dans les étoiles, là-haut.
Ouais.
Il le voit,
il te
surveille, je pense. Avant que ce comme toi, il faut le surveiller, je pense, de là-haut, tu vois.
Absolument.
Ouais. Et alors, tu écoutais un petit peu Bachung pendant ton...
Non, c'est venu plus tard.
C'était quoi la musique de ton enfance, un peu, ce que tu écoutais?
Bah, tu sais, c'était le début des yéyés, c'était le début des cheveux longs, c'était Antoine, c'était des choses comme ça.
Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais.
Oui. Moi, j'ai un seul regret quand tu parles de l'enfance, c'est que j'étais un peu trop jeune en mai 68. Ça m'aurait plu, tu vois, de monter sur les barricades.
De faire
Il me manquait 5-6 ans, quoi.
Ah ouais, t'étais jeune.
Mais
tu lançais pas de farine. Je sais que moi, je voyais à Place Kléber les jeunes lancer, enfin les étudiants lancer de la farine sur les flics.
Ouais, mais en village, t'as pas de flics.
T'as pas ça, ouais.
T'as le garde champêtre. Et puis, bon, voilà.
Qui t'a déjà pas mal puni, hein. Et alors, parle-moi un petit peu de tes parents. Tu parlais tout à l'heure que tes parents étaient hôteliers, ils avaient un restaurant.
Ouais.
Et c'est quelque chose... Tu as travaillé avec eux, tu as appris...
Oui. Ben, disons, j'étais programmé pour rester à Jungholz et développer l'affaire familiale. Hein.
Ah oui.
Comme j'étais l'aîné, c'est comme ça que tu es un peu programmé dans ce genre de famille, comme les vignerons et tout ça.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à manger, tes parents? C'était le plat du jour, là-bas?
Alors, c'était les plats du jour, c'était les pèlerins, il y avait des
ah, c'était les pèlerins,
des autobus entiers de pèlerins.
Ouais.
Et puis, le samedi et dimanche, c'était comble. Hein,
c'était comble, ouais.
T'avais deux mariages le samedi soir et t'avais 150 couverts le dimanche midi.
Wow.
Ouais.
Et donc, le jeune Bernard devait déjà mettre la main à la pâte, quoi.
Alors, pour mon argent de poche, c'était assez simple. Mon argent de poche, il était dépendant du nombre de seaux de petites bouteilles que je rangeais à la cave.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Et puis un seau, ça me faisait, je sais plus, c'était 10 francs à l'époque.
Les bouteilles vides, tu veux dire?
Ouais. Tu sais, il fallait ranger les petites bouteilles d'Orangina, de Coca-Cola,
de
Perrier, de Bacha. Et tu avais une caisse particulière pour chacune, tu vois.
Ah d'accord, il n'y avait pas de Pétrus?
Non, pas encore. Non, il y avait un peu de bon vin, mais... Ça ne m'intéressait pas encore.
Ah d'accord. On va demander à notre ami Lucas de nous mettre un petit peu de musique, là, la musique Le vent t'emportera. Tu verras, c'est très très joli, c'est des Québécois qui chantent ça. J'adore.
faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera.
Une belle version, hein. C'est beau, hein. C'est des Québécois, qui chantent ça.
Oui, oui.
C'est super joli, c'est ce que tu m'as suggéré.
Oui, oui.
En tout cas, c'est vrai que c'est une belle...
Oui, oui. Je trouve que c'est la plus belle version depuis Noir Désir.
Je trouve aussi que c'est très très beau. Alors, tu me disais à l'instant, le métier de cuisinier, c'est quand même un métier incroyable. Donc, tu es devenu cuisinier.
Oui.
Mais c'est un métier de dingo, avec les horaires.
Avec des bonheurs aussi, des satisfactions aussi, des...
Lesquelles,
par exemple aussi, moi je suis revenu et j'ai un peu modernisé la cuisine de papa, donc mon père me laissait faire. Et j'ai constaté que finalement, c'est les plats traditionnels qui marchaient le mieux, qu'il fallait les garder.
Par exemple,
la bouchée à la reine, les escalopes viennoises, les carpes frites, on avait aussi les carpes frites.
Ah bah oui, t'étais sur la route de la carpe frite là-bas.
Non, c'était plus haut. Mais disons, c'était une des spécialités du grand-père et puis tu pouvais pas les abandonner, tu vois. Et donc, je faisais un peu ce mix de cuisine entre les deux.
Et tu ramenais de la cuisine moderne, et ça, ils voulaient pas trop, tes clients.
Alors, les langoustines à Jungholz, c'est bien, quoi. Mais alors, tu les achètes, et puis tu en vends 5 portions, et tu en jettes 5 autres, quoi.
Ah ouais, d'accord. Donc, c'était pas extraordinaire.
Si,
quoi.
Mais disons, c'était bien. Moi, j'avais le droit d'essayer.
Ah ouais.
J'avais le droit de faire, c'est
ouais,
ça.
C'est
ce
bien
était
quand
chouette.
Même que ton père te laissait faire. Ouais. Et après les vol au vent, comment tu les faisais avec tes spätzle, des nudles?
Avec les nouilles à l'époque, oui.
Ah ouais.
Oui. Donc
que tu faisais toi-même?
Non, pas. Non.
T'as acheté chez grand-mère?
Non, chez Valfleury.
Ah, chez Valfleury, chez
c'était
toi.
Le nudel à Kuenz.
Ah, d'accord, ouais, des nudelmon. Dans des spätzle mon.
Donc Valfleury était originaire de Lintal, la première usine à Lintal, la deuxième à Guebwiller. Et après, ils ont migré vers Wittenheim pour s'agrandir.
Ah ouais, d'accord. Mm. Et après, tu avais aussi une idée un peu avant-gardiste pour l'hôtel de tes parents. Tu voulais installer piscine, spa,
ouais,
sauna,
ça,
hammam.
Ouais,
et tu avais cette idée à quelle période?
Ça, c'était le retour éco-hôtelière fin des années 75, 78.
Ah ouais.
Ouais.
Mais ça n'existait pas encore en Alsace.
Pas trop.
Si, pas trop.
Pas encore, non. Plus en Forêt-Noire déjà.
En Forêt-Noire, oui.
Ouais.
C'est de là que tu as eu cette idée.
Ouais,
parce que t'allais en Forêt-Noire.
Barreille, je devais y faire un stage.
Chez Hermann. Ah ouais, t'as été là-bas.
Ouais, au Triberg aussi. Et puis,
Tu gardes un bon souvenir de Barreille.
Charmant monsieur, grand monsieur.
Ouais. Élégant.
Grand professionnel. Oui,
élégant,
oui.
Je crois qu'il a eu un prix là cette année, meilleur personnage en Allemagne. Enfin, il a eu un prix immense là.
Oui.
Et puis c'est vrai, quand on le voit, il est très un peu comme un parapluie, toujours bien habillé. Il s'habille
en quatre épingles.
Ouais, il est extraordinaire cet homme. Ouais. Et donc cette idée, en fait, tu ne l'as pas fait à Mangold chez tes parents.
Ben,
là.
On a quitté l'hôtel restaurant parce qu'on a une fille qui avait besoin de nous. Et donc, on s'est occupé de notre petite fille, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc, tu avais ta vie familiale et tout. Et un jour, là, on parlait du vent à l'instant. Ce vent qui t'a emmené un peu ouvrir les grandes portes parisiennes dans la plus belle avenue du monde, aux Champs-Élysées.
C'est ça,
Tu as travaillé là-bas longtemps, je crois.
17 ans, oui.
17 ans dans cette maison d'Alsace, où en bas aussi, il y avait un restaurant.
Ouais.
Hein. Et tu avais beaucoup de visiteurs par an qui venaient te visiter dans cette maison d'Alsace.
Alors j'y avais pratiquement tout ce qui compte en Alsace, qui venait de temps en temps voir, c'était assez marrant, et qui venait pour des événements qu'on organisait, qui venait pour louer des salles, des choses comme ça. Et t'avais, à chaque fois qu'il y avait un article dans la presse, tu avais le couple de retraités qui venait, et qui venait voir la maison, tu vois.
Leur maison alsacienne,
Alors j'ai deux beaux souvenirs comme ça de gens... Tout simple, modestement, qui venait, qui osait passer le pas de la porte, tu vois. Donc le premier était un peu négatif, c'était la première phrase, c'est « Bonjour, on vient voir ce que vous faites avec nos impôts.
»
Après, il fallait l'hériter là.
Oui, c'est ça, oui, j'imagine,
Et puis un autre couple qui était très modeste, très simple et tout, et puis c'était dans la nouvelle maison, j'aurais tout montré.
Et dans cette belle verrière, là.
Ouais, j'ai remontré la verrière et tout. Ils étaient émerveillés et tout. Et puis, on repart dans l'ascenseur. Je descends avec eux parce que, en principe, je les accompagnais jusqu'au pas de la porte. Tu vois, je ne les laissais pas en cours de chemin. Et dans l'ascenseur, ils se disent entre eux, on va en parler à notre fille. Hein, elle est dans l'événementiel. Je me suis dit, bon, j'ai pas tout raté, quoi.
Ouais, c'est bien, ouais. Et alors, t'as rencontré des personnages illustres dans cette belle maison.
Ouais, donc, c'est vrai, il y a eu des rencontres comme ça qui étaient assez marrantes. Un jour, totalement masqué, lunettes de soleil, foulard sous la tête et tout. C'était Elsa Silberstein.
Ah ouais, waouh.
Je me demandais ce qu'elle venait faire dans la maison, tu vois.
Ouais. Elle avait des racines alsaciennes?
Non, mais elle avait un rendez-vous dans la maison.
Ah, d'accord.
Et un autre jour, quelqu'un qui est venu en repérage, et je n'étais pas informé. C'est mes collaborateurs qui l'avaient reçu, ils ne savaient pas que lui-même allait se déplacer. C'était Claude Lelouch.
Ah ouais, ok.
Donc tu arrives au sixième et tu tombes sur Claude
Lelouch. Sur Lelouch. Et là, tu passes un moment délicieux avec lui, j'imagine.
Non, mais ça, oui. Et puis là, j'ai laissé faire mes collaborateurs, je n'étais pas dans le coup. Et comme ça, de suite. Et un jour, j'ai fait une animation avec Annie Lautner, poète.
Ah ouais.
Poétesse. Donc voilà, on a préparé la soirée et tout. Et puis arrive la soirée, et puis elle me sort. Ce soir, il y a mon tonton qui vient. J'ai pas fait le rapprochement. Et le soir, dans les invités, on avait Georges Lautner.
Waouh ! Ah ouais !
Et alors là, c'est quand même grandiose.
J'imagine, ouais.
Bon, il était un peu fatigué parce qu'à midi, il avait déjeuné avec Paul Belmondo et ils avaient un tout petit peu abusé.
Ah oui, j'imagine, ouais. Et alors, à côté des Champs-Élysées, c'est quand même un moment extraordinaire. C'est quand même beau là-bas où tu étais, quoi.
Alors, j'ai connu des belles périodes. J'ai connu cette période qui est dans la chanson de Dassa, où il se passe tout.
Les Champs-Élysées.
Ou alors celle de Dutronc, tu vois, 5h du mat.
Parce que
se donner rendez-vous à 5h du mat dans le resto L'Alsace, comme il existait à l'époque, c'était quelque chose.
Mais c'était encore ouvert le matin.
Oui, 5h du mat. Oui, c'était ouvert 24h sur 24. Donc tu avais Garou qui faisait le fou sur la terrasse, tu avais Johnny qui passait par là aussi, tu avais plein de gens comme ça. Et tu avais Bruel qui allait se planquer dans la cave pour... après une nuit de poker, t'avais...
Donc t'as vraiment... des super souvenirs, quoi.
T'avais la mafia russe, t'avais les péripatéticiennes, t'avais tout, quoi. T'avais les éboueurs, t'avais tout. 5h du mat,
Dutronc, ouais. Et c'est vrai que ces Champs-Élysées, c'était quand même 300 000 personnes jour qui se baladent sur les champs.
Alors c'est un chiffre qui est donné, André. Les instruments de mesure existent, mais ils ne sont pas appliqués. Et ce chiffre existe depuis 10 ans.
Donc il a évolué, tu penses ?
À mon avis, il y a du vrai, mais il faut faire gaffe quand même. Ce qu'on savait, c'est que notre côté impair, donc côté ombre, tu as 100 000 et côté soleil, tu en as 200 000.
Ah, 200 000, ouais, donc ça fait quand même les 300 000. Mmh. Et donc c'est quand même des belles années pour toi, ces 17 ans.
Oui, absolument. Mmh. Absolument, parce qu'on a vu plein de choses se faire. On a organisé un rallye Bugatti qui s'est terminé aux Champs-Élysées.
Ouais, génial.
Avec 65 équipages.
Ah ouais.
On a vu Gad Weil arriver. C'était celui qui avait fait la grande moisson et qui voulait refaire son coup, donc en 2012. Et je dis, Gad, t'es né à Strasbourg, toi.
Ah ouais, bah ouais.
Donc, on s'est causé. Et j'ai dit, tu vois, devant la maison, je veux des houblons d'Alsace, je veux des vignes d'Alsace.
Ah
si
ouais.
tu as des vignes d'autres régions viticoles, je comprends. Mais tu les mets en bas des champs, tu les mets en haut, mais pas devant la maison d'Alsace. Et des houblons, des vignes et des choux.
Ah, d'accord.
Et des choux. Et donc, on a fait ça. Week-end de la Pentecôte, tu vois. On les a fait produire pour qu'ils soient à leur apogée. Et pour le transport, c'était un peu compliqué. Parce que moi, je croyais qu'on pouvait mettre tout ça dans un camion, le ramener sur les champs et planter les choux un par un, tu vois, dans la nuit.
Ouais.
Non, c'était pas ça.
C'était pas comme ça.
C'était pas comme ça. Et puis donc, j'ai découvert la logistique que je connaissais absolument pas. Et il me fallait 6 camions.
Waouh ! Ah ouais, pour emmener tout ça, quoi.
6 semi-remorques.
Ouais. Tu es un peu nostalgique par
rapport
à cette...
Attends, je te dis juste parce que personne ne te donne une rallonge budgétaire pour les 6 camions.
Ah ouais.
Donc, j'ai appelé Heppner, Jean Schmitt. J'ai appelé Jean Schmitt, j'ai dit je suis dans la merde.
Et c'est lui qui t'a arrangé ça, quoi.
Il m'a prêté, il m'a donné gracieusement 6 camions.
Et oui, tu vois l'impact que tu avais.
Ça c'était juste terrible. Parce qu'il y a une entraide, il y a une communauté alsacienne à Paris qui est chouette.
Ça je connais un peu. Ouais. C'est vrai, quand tu habites à Paris, l'Alsace te manque. On va te mettre une petite musiquette là, venue te dire adieu. Je vois que tu es un peu nostalgique en quittant cette ville parisienne. On va te mettre cette jolie musiquette.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'air, nos vents mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu supposes que tu blêmis ma présence.
Tu as pleuré quand tu es parti de Paris ?
Pas vraiment, c'est une page qui s'est tournée. Et puis la maison est pérenne, donc bien reprise. Non, j'ai pas pleuré. Non, non, c'était une belle période. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Et puis après, il faut savoir passer la main.
Passer la main, c'est vrai. Et alors aujourd'hui, tu es un jeune retraité. Et c'est comment ? Comment tu passes ton temps aujourd'hui ?
Alors,
de passer de l'ombre à la lumière, ou de la lumière à l'ombre.
Ça s'est fait très vite. Donc j'enseigne à nouveau.
À l'école hôtelière ?
Donc, non, l'EM et au pôle formation de la CCI.
Ah.
Tout ce qui est communication, tout ce qui est événementiel, etc. Ouais.
Et ça, c'est bien, ça ?
Ça me plaît bien parce que l'expérience que j'ai acquise, je peux la transmettre.
Et oui.
Et je peux les rendre attentifs sur l'évolution de l'événementiel parce que je leur dis que ce qui s'est passé avant le Covid, c'est de la préhistoire. On n'en parle plus.
Oui, c'est vrai.
Et on a changé. Donc maintenant, comment qu'on voit l'événementiel pour les années 2020 à 2030 ou 2040 ?
Après, tu as une toute autre fonction que je connais un peu. Tu es de Brezhtelmann,
on peut dire ça.
En vrai, le Disher Brezhtelmann.
Le distributeur automatique de Brezel.
C'est quoi ? Raconte-moi un peu cette histoire de Brezel.
Un institut que je connais bien, qui a été créé par Germain Müller.
Ah, l'empereur d'Alsacien, là, notre
ouais, ouais.
Alors,
donc,
parle-moi
Germain Müller qui a créé ça et puis qui distribuait ce bretzel aux Alsaciens les plus méritants.
Ça date de quand, ça ?
Et ça date de 76. Et en 2018, l'Institut est venu à Paris pour récompenser des Alsaciens de Paris. Il y avait Pierre Hermé, il y avait Hervé Tisse. Il y avait François Florent, que j'ai bien connu.
Ah oui, de l'école.
Et puis donc, je faisais partie de cette fournée de bretzelisés.
Ah ben 2018, ça me rappelle quelque chose aussi à Célestat. Ouais, j'ai aussi eu cette chance d'être bretzelisé.
C'était presque au même moment. Et en fait, à ce moment-là, je suis entré dans le comité comme membre du comité de l'Institut. Et Jean-Marie Vetter, qui a tenu ça
pendant une quinzaine d'années,
avouait un peu sa fatigue en disant qu'il était prêt à passer la main.
Et donc, il a pensé à toi.
Il voulait que je prenne la relève. Il a commencé à travailler les gens du comité dans ce sens. Et je lui demandais de patienter pour mon retour. De Paris, je ne pouvais pas faire ça.
Tu ne pouvais pas faire ça. Ouais. Et alors, je voulais quand même te raconter une petite anecdote. Parce que quand M. Vetter et M. Isis sont venus me voir à France 3 parce qu'ils voulaient me bretzeliser également, en janvier 2018, j'étais en plein montage d'une émission que j'ai fait à la LIC. Et alors, je leur ai posé, mais c'est quoi votre trophée ? Tout ça, j'étais très heureux d'avoir ce bretzel. Alors, je leur ai parlé de la LIC. Parce que je connaissais bien les gens de la LIC. Comme j'ai tourné, je dis, mais pourquoi vous ferez... feriez pas une bretzel Lalic ? Et en fait, on est allé voir les gens de Lalic et c'est devenu ce que j'ai
en main, tu vois.
Et cette bretzel-là est devenue noble. Et c'est quoi exactement avoir une bretzel ?
On poursuit simplement.
Comment ?
André, on poursuit avec Lalic. Donc le bretzel d'or est un pavé de cristal de Lalic.
C'est ça. Et je suis un peu l'initiateur et ça me fait vraiment plaisir. Quoi. Et raconte-moi un peu ce trophée. Les gens savent ce que c'est, ce trophée.
Alors, à mon grand étonnement, j'ai pris la succession de Jean-Marie, qui a fait un sacré boulot. Et je me rends compte que pour les Alsaciens, c'est encore la plus haute distinction. C'est encore la
Légion d'honneur,
ouais,
tu veux dire
comme ça, ouais.
Ouais, on peut dire ça.
Il y a un petit côté Légion d'honneur. Et en fait, il ne faut pas galvauder ça, il faut en garder cette exclusivité et cette hauteur de vue et faire en sorte que ça reste la plus haute distinction alsacienne. Aujourd'hui, tout le monde distribue des breloques, tout le monde distribue des trophées, tout ce que tu veux, mais il faut se dire qu'au-dessus de tout ça, il y a le bretzel d'or.
Et là, tu as déjà une idée pour l'année prochaine, pour 2024, qui c'est qui sera bretzelisé ?
Alors, on a... professionnaliser un peu la sélection. On a, pour octobre 2023, on a 70 dossiers de candidature qu'on va devoir examiner.
C'est des gens qui demandent ou c'est vous qui...
Non, ça, il y a 70 appels, il y a 70 personnes méritantes, toutes.
En Alsace.
qui pourraient l'avoir, mais on ne peut pas la distribuer à 70,
à tout le monde,
donc là on va faire une sélection drastique, et on a quelques idées pour 2024. En fait, on est même dans l'actu, parce qu'on va à Marlenheim octobre 2023, et on va à Tannes octobre 2024.
Ah ouais.
Tu vois, on fait toute la route des vins.
D'accord. Et donc c'est là que vous allez donner les bretzels.
Ouais, et à côté de ça, on a aussi développé un peu les relations avec les autres associations. On peut donner un bretzel à une autre occasion que la cérémonie des bretzels d'or.
Ah oui.
Par exemple, avec l'Union internationale des Alsaciens.
De l'étranger, quoi.
Oui, oui, ouais. Où on participera pour que cette distinction, pour ceux qui souhaitent travailler avec nous, cette distinction qui est la plus haute distinction alsacienne, on est prêt à aller la remettre dans d'autres circonstances et d'autres occasions.
Et pourquoi tu ne ferais pas une bretzel pour des villages, comme une sorte de relais, tu sais, comme une course au relais où tu donnes une bretzel à un village et l'année d'après, il le donne à un autre village.
C'est une idée que vous avez retenue. C'est en cours de fabrication. Et en fait, on va remettre un challenge qui va s'appeler Jean-Marc Schaffner de l'entreprise de métallerie.
Ah oui.
Qui est en train de nous concevoir un trophée pour les communes.
Ah, c'est intéressant, ouais. Mmh. Alors, je vois que tu t'ennuies pas pendant ta retraite.
Bah, ça occupe bien.
Ça occupe bien, ouais.
Ça occupe bien, ça évite de faire des bêtises, ça évite de trop dépenser, et puis voilà.
Ouais. Et puis, alors, reparle-moi un petit peu de cette bretzel dont vous parlez de ton comité. Vous êtes nombreux dans ce comité ?
Une vingtaine.
Une vingtaine, quand
oui,
même ?
Oui. Ah. Oui. On a régénéré le comité. Tu as Serge Dupes, le sommelier,
bah oui,
qui est là-dedans.
Je vois bien qui c'est, Serge.
Tu
ouais.
as
ouais,
ouais. Hubert Vels, qui est un ancien banquier, qui nous tient à la trésorerie. Oui, tu as de nouvelles forces qui sont arrivées.
Ouais, c'est très intéressant, ben c'est parfait. Mais écoute, je vais te remercier en fait de ce moment qu'on a partagé derrière le micro. Je voudrais aussi te faire un petit cadeau, t'offrir mon livre à Goethe,
merci,
des
André.
Éditions du Cygne, avec une petite dédicace.
Ouais.
Merci
sympa.
En tout cas,
sympa.
J'espère que tu vas garder un bon moment de cette radio. Donc, mercredi et le dimanche matin, 12h30, c'est rediffusé. Merci Bernard.
Merci André.
On s'est prof.
Merci, on va ici.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.